Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
6h40, les enjeux internationaux. Ce week-end au Caire, les négociations entre Israël et le Hamas ont une nouvelle fois échoué. Après 7 mois de conflit, on espérait la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en échange des otages sous la pression des États-Unis qui veulent éviter une offensive militaire sur la ville de Rafah. Mais en l'absence d'accord, celle-ci se rapproche et Israël a déjà demandé l'évacuation de certains quartiers. Le sort des otages reste quant à lui en suspens. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Et tout d'abord, une question, il faut que vous nous éclairiez sur ces longues négociations pour tenter de trouver un accord, sinon de paix, en tout cas de cesser le feu momentané. Pourquoi celles-ci ont-elles encore échoué? Qu'est-ce que l'on sait au sujet de ces différentes négociations?
Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une grande confusion qui règne, puisqu'il y a eu l'annonce hier par le Hamas via son bureau politique à Doha, que finalement il acceptait le cessez-le-feu. Mais je parlais de confusion parce qu'en réalité les paramètres qui ont été évoqués dans cette annonce ne recoupent pas les paramètres qui avaient été négociés jusqu'au week-end dernier. Et donc c'est comme si c'était une annonce un peu à contre-temps, dans la mesure où tout était paramétré pour finaliser le week-end dernier au Caire, et où il y a eu effectivement une obstruction au dernier moment du Hamas, avant le lancement d'une opération, pour l'instant encore limitée, mais de Tsahal sur Rafah. Et c'est probablement le lancement de cette opération qui a conduit, juste après, le Hamas à évoquer le fait qu'il était finalement d'accord pour un cessez-le-feu, sans en préciser les contours. C'est tout le problème. Alors Israël a dit qu'il examinait cette ultime proposition, mais avec beaucoup de prudence et sans différer l'opération lancée.
Oui, parce que mon impression, c'est que Netanyahou a utilisé cette opération sur Rafah pour faire pression sur le Hamas.
Oui, mais cette opération, de toute façon, elle était établie depuis longtemps. Hein. Il l'avait annoncé dès le 8 avril en disant que ça se fera. Et il avait même précisé qu'il y a une date. Alors, il se trouve que dans la mesure où il y avait le processus de négociation qui a échoué le week-end dernier, elle était différée. Et tout l'enjeu pour les États-Unis, c'était précisément de parvenir à la finalisation d'un accord avec une trêve dans un premier temps suspensive qui permettrait de facto de différer l'opération et dans un deuxième temps éventuellement d'envisager un cessez-le-feu plus permanent. Et il se trouve que le Hamas ce week-end a maintenu des exigences maximalistes, c'est-à-dire le prérequis d'un cessez-le-feu permanent préalable. Et ça, c'était inaudible pour Israël et ça explique l'impasse qui conduit à la situation actuelle.
Au final, qu'est-ce qui détermine donc les actes des uns et des autres? Alors, je pense notamment au Hamas, parce que on voit bien que les otages constituent la seule monnaie d'échange qui aujourd'hui permet donc au Hamas de poursuivre des négociations. Donc, on peut imaginer une libération partielle, mais certainement pas une libération totale des otages encore vivants à Gaza.
Oui, c'est tout le problème. Alors ça, paradoxalement, le paramètre des otages avait été assez bien déterminé sur les deux phases prévues par l'accord qui n'a pas abouti ce week-end. En l'occurrence, une première phase qui aurait conduit à la libération de 33 otages sur les critères justement de vulnérabilité, femmes, mineurs, personnes âgées et malades, en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, dont des prisonniers condamnés pour crimes de sang, voire terrorisme. Et c'est pour ça que les Américains avaient considéré qu'il y avait eu un assouplissement des Israéliens sur justement le profil et le nombre des otages
des prisonniers libérés,
des prisonniers libérables justement par de la part d'Israël. Mais du côté d'Israël, il n'était pas question pour autant d'envisager d'accepter le principe d'une trêve permanente. Or c'était le point central en réalité. Et il y a eu un pari probablement de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans l'enclave de Gaza, qui sur le fait que les Américains maintiendraient une pression sur Israël Israël pour empêcher en tout état de cause qu'il y ait l'opération sur Rafah, ce qui n'a pas eu lieu puisqu'elle a été lancée. Et du coup, effectivement, ça a conduit vraisemblablement le bureau politique à, de manière ultime, à reproposer une nouvelle formule, mais selon des paramètres qui ne sont plus les mêmes. Et donc, il y a une forme de stratégie dilatoire pour perpétuer une forme de processus de négociation qui n'aboutit jamais réellement.
Du côté israélien, on dit que cette opération militaire a été un succès et il y a donc eu énormément de pertes civiles à Gaza, hélas. Mais d'abord, je ne sais pas dans quelle mesure l'opinion publique israélienne dans sa majorité déplore ces pertes civiles. Et puis d'autre part, ce qui est clair, c'est que les moyens du Hamas ont été en partie détruits. L'opération Rafah devant donner une sorte de coup final au mouvement terroriste. Qu'en pensez-vous, David Rigoulet-Rose?
Oui, ça c'est le but de guerre affiché par le gouvernement Netanyahou et le Premier ministre en personne. Le problème, c'est que la situation est plus complexe sur le terrain. On peut effectivement détruire une structure politico-militaire, mais pas une idéologie, c'est tout le problème. Et en l'occurrence, dans le cas de l'enclave, il y a toujours le spectre du jour d'après, c'est-à-dire quelles sont les perspectives à supposer que effectivement le sud soit investi, puisque le Premier ministre israélien dit qu'il y a encore 4 brigades qui seraient opérationnelles au sud, et c'est ça son objectif de guerre.
Justement, je voulais avoir votre point de vue déjà sur l'objectif affiché par Netanyahou, donc de détruire les infrastructures du Hamas, puisqu'on comprend bien qu'on ne lutte pas contre une idéologie. Déjà, est-ce que celui-ci qui se targue d'avoir atteint ses buts de guerre, est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est une fois de plus de la communication partant de guerre?
Il y a les deux éléments, c'est-à-dire que sur le plan opérationnel, il est clair que la structure politico du Hamas a beaucoup souffert. Elle est plus en situation de faire le poids par rapport à la force militaire israélienne. Et c'est pour ça que il y a un pari, une stratégie de la part de Yahya Sinwar, notamment sur les opinions publiques extérieures et sur les pressions qui peuvent être faites à l'endroit d'Israël, à la fois en interne, c'est-à-dire les familles qui sont omniprésentes dans le débat politique, justement pour faire pression sur le gouvernement, et à l'extérieur, y compris de la part des Américains. Parce qu'en réalité, le Hamas capitalise sur l'image en creux par rapport à sa faiblesse militaire. Mais le problème, c'est que ça atteint ses limites aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce jeu, cette stratégie largement dilatoire, on l'a vu avec ce week-end, l'impasse qui a été actée, conduit de toute façon mécaniquement à la fin à une logique militaire, avec tous les risques que ça suppose pour les populations civiles.
Et alors, justement, est-ce que on pourrait imaginer, par rapport à cela, qu'il y ait une sorte d'accord avec certains pays arabes, parce que toujours dans la perspective donc de la communication liée à cette guerre, le gouvernement israélien dit que finalement beaucoup de pays arabes ne voient pas d'un mauvais œil le fait que le Hamas soit défait.
Oui, mais peut-être de manière implicite, mais certainement pas explicite.
Non, parce qu'ils ne peuvent pas, bien sûr, on parle de manière implicite.
Ils ne peuvent pas se permettre ce genre de considération par rapport à leur propre opinion publique, qui de toute façon soutient la cause palestinienne de manière importante. Donc il y a une déconnexion effectivement entre certains calculs géopolitiques des dirigeants des États arabes et puis ce qu'on appelle un peu de manière caricaturale la rue arabe. Donc il y a un arbitrage toujours compliqué, même si sur le fond effectivement le processus qui avait été initié des accords d'Abraham n'est pas hypothéqué de manière définitive, mais pour autant la situation actuelle ne permet pas de toute façon effectivement une forme de normalisation compte tenu du caractère conflictuel de la situation aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, David Rigoulet-Rose, pour un avenir proche? Est-ce que vous pensez malgré tout qu'un accord de cessez-le-feu partiel, temporaire, va être trouvé entre les deux parties?
Pour qu'il y ait accord, il y avait une fenêtre d'opportunité ce week-end. Il faudrait que le Hamas accepte le principe d'un cessez-le-feu suspensif. Alors dans la nouvelle mouture qui est proposée, ce qui est intéressant, c'est la formulation. Apparemment, il y aurait trois phases qui seraient prévues justement, avec l'idée de parvenir à un cessez-le-feu définitif et non pas comme préalable. Si c'est le cas, ça ouvrirait la possibilité d'effectivement de cette d'une première étape avec un cessez-le-feu suspensif, ce qu'avait toujours refusé le Hamas jusqu'à présent. Mais on n'en est pas là. D'ailleurs, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan militaire, l'opération a été lancée de la part d'Israël. Et on peut noter que c'est à l'unanimité du cabinet de guerre, y compris de Benny Gantz, qui, par rapport à Benjamin Netanyahou, a toujours manifesté son hostilité. Donc on voit bien que les choses sont quand même très compliquées.
Merci beaucoup, David Rioulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS. On vous doit notamment cette revue Orient stratégique aux éditions L'Harmattan. Dans quelques instants, Pierre Repère avec Science. Il va nous expliquer pourquoi les villes chinoises s'enfoncent, absolument, elles s'enfoncent dans le sol.